voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Ce soir, la poésie, c'est la guerre.
Ah, brouillage. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Voici quelques messages personnels. Les renards n'ont pas forcément la rage. Je répète, les renards n'ont pas forcément la rage. Rodrigue ne parle que l'espagnol. Je répète, Rodrigue ne parle que l'espagnol. J'aime les femmes en bleu. Je répète, j'aime les femmes en bleu. Nous nous roulerons sur le gazon. Je répète, nous nous roulerons sur le gazon. Enfin, chaque fois c'est tirez-vous les carottes sont cuites ou allez faire sauter ce pont et attention à Rodrigue. Un enfant est forcément sensible, enfin un enfant un peu alerté, parce que je sais pas, mes sœurs ne faisaient pas attention. Les Allemands occupaient le bas des maisons, on écoutait tout ça dans les greniers, assez grand. Et dans les caves, il fallait cacher les parachutistes ou les Anglais qui s'étaient écrabouillés pour les faire passer en Espagne. C'était très perturbé, d'abord. Un monde absolument invraisemblable. Voilà, plein dans l'histoire, alors au sens explosif.
Et précisément, Philippe Solers, le mot « guerre », qu'est-ce qu'il signifie pour vous à cette époque-là? Est-ce que c'est un mot qu'on emploie? Est-ce que c'est un mot qui vous marque?
C'est pas un mot, c'est une situation extrêmement violente. Où est-ce que la population française, ou son gouvernement, ou son administration, se réfugie en temps de guerre? 1870, 1914, 1940, etc. À Bordeaux. C'est de là que le général de Gaulle prend son avion pour Londres.
C'est chez vous, donc, hein, là où vous êtes né.
Tout récemment, je me suis dit, ça va recommencer à la Juppé. Et là, bon, guerre, alors, ça veut dire surtout le fait qu'il ne faut pas parler de guerre. Et là, nous sommes en plein dans ce que j'ai reçu de plein fouet, c'est la guerre d'Algérie. Et vous n'aviez pas la possibilité de considérer que c'était une guerre. C'était le maintien de l'ordre. C'était des choses...
Les événements.
Oui, alors après ça, c'est les événements. Il n'y a pas eu de révolution en 1968. C'était la chienlit ou le désordre. Tout à coup, vous vous habituez à voir que les gens mentent sur la guerre. Parce que quand même, d'une part, prenons-les dans l'ordre, on ne va pas remonter au déluge. La boucherie de 1914-1918, qui est toujours là, purulente, a été quand même abominable. Vous ne savez pas ce que ça a pu être si vous voyez des documents. J'aime beaucoup suivre les documents sur les guerres. Bon, si vous voyez ça, les types dans les tranchées, au Picrate, c'est une boucherie épouvantable, extraordinaire. Bon, 1940, alors le grand mensonge est là, on s'est arrangé. Bon, après ça, De Gaulle revient et vous fait croire que... Bon. Mais la guerre d'Algérie, c'était absolument impossible d'en parler. Donc ça, j'ai toute une génération qui a été prise de plein fouet.
Mais à cet égard, j'aimerais peut-être qu'on commence cet entretien avec une nouvelle lecture... Une lecture de votre roman Le Parc.
D'accord. Le Parc, 1961. Deux coups de feu viennent de claquer en bas vers la droite. Les détonations se succèdent à présent, quelques-unes brèves, sèches, d'autres plus sourdes, d'autres en rafale automatique, se gagnant de vitesse, couverte de temps en temps par une déflagration plus ample, plus chargée. Une fusée éclairante rouge s'épanouit là-bas, le signal. Il s'arrête, crie un ordre, fait un signe, revenant sur leurs pas. Ils courent tous les cinq au secours de l'autre groupe qui vient d'ouvrir le feu. Lui trébuche contre les pierres, tombe, se relève, la paume de sa main droite saigne, se remet à courir, ou bien elle conduit la voiture à vive allure, elle accélère encore, les phares ouvrent entre les arbres un tunnel lumineux, il dévale la pente, alors qu'il est inutile de courir, puisque malgré les mouvements rapides des jambes, je n'avance pas d'un centimètre, je vais être rejoint, mais on retarde le plaisir de m'attraper, me laisse dans cette position humiliante où j'essaie vainement de fuir. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs actions qui se combinent et qui se croisent. Il y a une femme qui est en train de conduire, un homme qui va mourir pendant la guerre d'Algérie, c'est d'ailleurs un ami à moi que je pense, et je vis aussi, le corps du narrateur vit une situation de paralysie. Ce mort aurait pu devenir un excellent écrivain, bon, voilà, il a été tué.
On le retrouve d'ailleurs, Philippe Sollers, ce mort, un an plus tôt, en 1960, dans le premier numéro de la revue que vous fondez, telle quelle, Requiem, aux éditions du Seuil, oui. Et c'est Requiem, qui est un hommage donc à Pierre de Provenchère.
Exact. J'ai réagi par la froideur. C'est un texte qui décrit de la façon la plus froide possible un enterrement avec les clichés, mort au combat. Cela dit, toutes les cérémonies de recouvrement de la mort me sont extraordinairement pénibles. Hein. Là-dessus, tout le monde ment. Ça suit le mot mort. Hein. Là-dessus, tout le monde ment. Et vous avez en effet des gens qui, visiblement, y trouvent une sorte de satisfaction considérable. De recouvrir les cercueils de drapeaux, de dévoiler des plaques. Qu'est-ce qu'une société par rapport à la mort ? C'est une question très importante, parce que vous allez voir se dessiner à ce moment-là tous les soubassements métaphysiques, plus ou moins religieux, l'appel aux valeurs, lesquelles d'ailleurs je vous le demande, etc. Parce que devant la mort, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si je peux dire, hein, ou à dire. Or, ça parle beaucoup. Ça parle pour recouvrir, hein. À peine, j'aime beaucoup le vers de Baudelaire, vous savez, les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. C'est un vers qui résonne d'une façon particulière.
Mais vous, Philippe Sollers, pour, entre autres, échapper à la mort qui était promise à tant de personnes pendant la guerre d'Algérie, vous choisissez, face aux recruteurs de l'armée, de jouer la folie, au risque de sombrer, dit-on, vous-même dans la folie. Il y a quoi dans votre tête
à ce moment-là ? Ça a été ric-rac. J'ai passé un certain temps dans un quartier que j'évite maintenant de fréquenter. C'est du côté de la gare de l'Est, l'hôpital Villemain, etc. De là, j'ai été envoyé pour vérification de mon état de santé, dans l'est de la France, à Montbéliard, et après je me suis retrouvé à Belfort. C'était là qu'on envoyait les cas un peu bizarres, il fallait trancher. Alors là, j'ai décidé carrément de mettre les choses tout à fait au clair, c'est-à-dire j'ai commencé une grève de la faim, j'avais dans mon pyjama une lame de rasoir, et si ça avait continué, je m'ouvrais les veines, vous voyez, ça c'est l'exemple latin que j'avais retenu. Voilà. Là, j'ai commencé en effet à ne pas répondre, et on m'a mis devant un capitaine psychiatre qui m'a interrogé. Je lui ai répondu... Ben, je suis assez bon, vous savez, il faut se méfier. Répondu de façon un peu erratique. Il m'a demandé ensuite de dessiner un homme et une femme. Alors, je l'ai fait avec beaucoup de détails. Beaucoup de détails sexuels, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Et puis, je ne leur ai pas mis de bras. Alors, il m'a regardé, il était devant un cas intéressant. Il m'a dit, il manque rien, c'est vrai. Et je dis, non, pas du tout, qu'est-ce qui manque, je vois pas. Et ça a marché, parce que j'ai été réformé numéro 2, sans pension, pour terrain schizoïde aigu. Mais j'aurais pu rester là encore plus longtemps. Et je dois dire que c'est à André Malraux que je dois ma libération, alors que je commençais à décliner quand même très très sérieusement, parce que ça durait 3 mois quand même. Et donc Malraux, je l'ai remercié. Voilà. Je l'ai remercié et il m'a répondu cette carte de deuil, parce que ses fils venaient de se tuer, je crois. Enfin, what. C'est moi, monsieur, qui vous remercie d'avoir pu rendre au moins une fois l'univers moins bête. Signé André Malraux. Bon, ça va, quoi. Si les ministres de la Culture sont à ce niveau-là, moi, je veux bien. En tout cas, il m'a sauvé la vie, probablement, parce que là, j'étais dans un sérieux ennui. C'était ce qu'on appelait la guerre d'Algérie. Il y avait, au moment où j'étais dans les hôpitaux militaires, le retour, c'était la fin. Il y avait le retour des blessés. Il fallait rapatrier tous les blessés d'Algérie. Tombeau pour 500 000 soldats, c'est le titre de mon ami Pierre Guyotard qui à ce moment-là a fait sensation. Tombeau pour 500 000 soldats. Hein, voilà. Eh bien, là, l'arrivée des blessés qu'on ramenait des hôpitaux algériens, c'était tout à fait impressionnant. J'étais assis dans mon lit, j'avais à côté de moi un type qui visiblement avait perdu la raison, il avait sauté sur une mine, et il venait me regarder dormir. Et alors, de temps en temps, je jouais un peu les yeux, c'était quand même... C'est rien par rapport aux tranchées de 1914-1918, c'est rien. Sauf que ce rien était quand même extrêmement fatigant. Et ce qui m'étonnait le plus, c'était le tutoiement, cette espèce de grossièreté de l'armée, enfin, grossièreté totale. Donc,
Et on parle ensemble, dans ce volet de nos entretiens, Philippe Solers, de la guerre. Et à propos du tutoiement, il y a un autre type d'événement qu'on évoquait tout à l'heure brièvement. Ce sont ceux de mai 68. Il était de bon ton de se tutoyer, entre camarades en particulier. J'aimerais savoir comment vous avez passé 68, parce que quand je me suis posé la question en préparant cette émission, je me suis représenté Philippe Solers, non pas sur les barricades, mais dans un appartement parisien. J'ai pensé à Pierre Goldman, qui attendait un coup de fil de Cuba ou du Venezuela, et qui, dit-on, ne s'est pas mêlé à la rue parisienne. Et puis j'ai pensé aussi au narrateur de votre roman « Une curieuse solitude », qui est à la fenêtre et qui observe le monde et qui se fond dans le monde. C'est en 58. Mais je vous ai imaginé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors dites-moi étiez à la fenêtre.
Ah, pas du tout. pas du tout. J'étais dans la rue, j'étais partout. Paris était dans un état de... c'était la grève générale, c'était un marché... Non, c'était... Paris était une fête. Non, j'ai assisté à beaucoup, beaucoup d'événements et je me suis retrouvé une nuit coincé. J'ai encore dans les yeux les gaz lacrymogènes, les gens en train de jeter des seaux d'eau avec sympathie pour aplatir un peu les gaz. Il y avait une effervescence qui allait dans tous les sens, peu importe. C'était une effervescence absolument révolutionnaire. Il y a eu une révolution en mai 68. Hein. C'est pour ça que tout le monde veut... On vous fait peur avec ça, chaque fois qu'il y a un petit truc, est-ce que ça va pas recommencer? Bon, non. Du point de vue des mœurs, de la vie quotidienne, il y a un avant et un après absolument considérable. On n'a pas besoin d'insister.
Et alors pour vous, l'écrivain, parce que vous avez pu écrire dans numéro 116 de la revue L'Infini que vous avez fondée, cette revue qui s'intitule Destin du français, à propos de la langue, le français a cette particularité de vivre dans le conflit, de se prolonger par et dans la crise. Qu'est-ce que le français? Eh bien, c'est la crise, dites-vous, et la crise par définition est mobile, inquiétante, inattendue et donc révolutionnaire.
Oui, je crois que c'est
en quoi
vrai.
Cette révolution de 68, elle a heurté votre langue, votre verbe.
Il faut le voir dans les livres. Il y en a un qui s'appelle H.
La lettre H.
La lettre H. Ce qui est curieux, c'est que, à part un journaliste qui vivait en Allemagne, personne ne m'a jamais interrogé sur l'usage que j'aurais pu faire du cannabis, dont je faisais un usage tout à fait important. J'ai pas donné ce titre sans penser à ça. C'est curieux, ça n'a pas intéressé personne. Donc, et vous avez ça, et puis vous avez ma description de la grande manifestation où j'étais, avec Sartre et quelques autres, pour l'enterrement de Pierre Auvernet. C'est le seul mort de 68. C'était une immense manifestation, la dernière, au fond, en termes révolutionnaires, bon, si vous voulez. C'était très, très émouvant. Je me suis retrouvé donc un soir dans la rue d'Ulm, qui était assiégée, où les types se réfugiaient. Il fallait se réfugier quelque part. Sans quoi on était tabassés, arrêtés, etc. Et là, je me suis demandé ce que j'allais faire. Eh bien, j'ai trouvé. Je me suis fait passer pour un médecin. Peut-être j'ai trouvé un tablier blanc, et puis il y avait un type qu'il fallait porter parce qu'il était blessé, etc. Et donc les flics m'ont laissé passer. Donc, et puis j'ai couru un peu quand même, voilà, par la suite. Et j'en garde un souvenir très, très, très fort, très, très fort. La première chose qu'a fait l'ancien président de la République qui vient de prendre, comme vous voyez, sa retraite, puisqu'il a été licencié. L'ancien monarque républicain a été licencié. Donc, tant pis. Oui. Mais enfin, le premier meeting qu'il a fait au moment de sa campagne de 2007, ça consistait à vouloir éradiquer tout souvenir des événements de 1968. Vous voyez, l'histoire doit être là tout le temps chez un écrivain. Et un écrivain qui ne raconte pas l'histoire de son pays, ou l'histoire du monde, son pays inclus dans le monde, bon, vraiment, c'est pas grand-chose. Ils se replient, encore une fois, sur leurs petites histoires, mais sur leur circonscription, c'est pour parler en termes électoraux. Comme a dit Mandelstam, l'admirable Mandelstam, poète, liquidé par Saline, la poésie, c'est la guerre. Vous ne pouvez pas être écrivain sans faire la guerre, d'une façon ou d'une autre. C'est très passionnant, la guerre. Tactique, stratégie, alliance, retournement des alliances, etc. La vie chez les humains, c'est la guerre. Ceux qui mentent, c'est ceux qui parlent de paix. Il n'y a pas de paix. Ça, c'est, la Bible vous le dira. Méfiez-vous des prophètes qui vous disent la paix, la paix, la paix. Il n'y a pas la paix, c'est la guerre. La guerre est constante. Vous avez des convictions, vous n'en avez pas. Vous avez des adversaires et vous êtes attaqué. Oh là là, je peux vous sortir mon dossier de presse. Il va fumer. Vous ne saurez pas si je suis bon, méchant, fou, etc. Complètement tartignol. Non.
Et à propos de vos adversaires, Philippe Solers, vous avez pu vous intéresser à des duels. Je pense à Francis Bacon et Velasquez autour de ce pauvre pape Innocent X. Mais vous, est-ce que vous avez combattu en duel? Est-ce que vous êtes descendu sur le pré pour combattre en duel avec la plume ou avec le pistolet ou l'épée?
Mais oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis, puisque je leur fais la guerre, c'est normal.
Mais il faut un ennemi à sa mesure que l'on...
Oh, vous savez...
Que l'on respecte pour le combattre en duel, non?
Non, il faut réagir à une insulte, par exemple, ou à une calomnie, ou une fausseté, ou... Non, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, j'en suis plein. Donc, là, vous ne l'avez pas, contre-attaque?
Vous entretiens avec Franck Nouchi, donc chez Grasset, contre-attaque.
Voilà. Vous verrez ce que des gens très importants, dites-moi, Pierre Bourdieu, Régis Debray, etc., etc. Je nomme. Et le livre s'appelle Contre-attaque. Donc, ce sont des duels qui sont pas sur le prêt, mais ce sont des duels sérieux. Là, je réponds simplement à des... Puisque c'est la guerre, évidemment, c'est de la légitime défense. Voilà tout. Et la grande guerre, il faut lire un peu Clausewitz, que qu'est-ce que c'est que le principe fondamental de la guerre ? C'est la défensive. Ne pas croire que la défensive, c'est quelque chose où on se tourne les pouces, on se replie, etc. Au contraire, c'est un comble d'activité, parce qu'il va y avoir un jour la contre-offensive. Et donc, qui a su se défendre sera attaqué. Donc, il faut savoir se défendre. C'est un très joli mot, se défendre, je trouve, non ? On se défend. Tiens, voilà quelqu'un qui se défend, comme on dit en argot. Hein, voilà.
Là, on est dans votre bureau qui ferait un bon poste de défense. Hein. On est en présence de ce poème chinois qu'on évoquait dans notre premier entretien, et puis de ce portrait signé Castiglione d'un empereur chinois, portrait équestre. Vous êtes un grand lecteur de Sun Tzu, de l'art de la guerre, mais la littérature, ça sert d'abord à faire la guerre,
oui.
Pour paraphraser Lacoste, ou oui, ça sert d'abord à faire l'amour ? Parce qu'on s'y perd avec vous, Philippe Solers.
Eh bien, ce slogan absurde, faites l'amour, pas la guerre, est idiot. Vous faites la guerre et l'amour.
Guerre des sexes.
Oui, vous faites la guerre et l'amour. Ce musicien génial qui s'appelle Claudio Monteverdi vous écrit les madrigali guerrieri e amorosi. Guerrier et amoureux. C'est la même chose. C'est la même activité. D'ailleurs, vous aurez plus ou moins de succès avec vos partenaires, bon, dans mon cas féminin, qu'elles apprécieront la façon dont vous êtes un noble chevalier de la guerre. Voilà. Or, ça demande... Ah oui, ça c'est... Les Chinois sont très extraordinaires là-dessus. Pour eux, tout se tient. Voilà. La médecine, la guerre, le gouvernement, sont ceux les 13 articles, les 36 stratagèmes. Vous voyez, ça, ce sont des bouquins que je vous recommande. Si vous êtes fort, faites semblant d'être faible, et si vous êtes faible, faites semblant au contraire d'être fort, etc. Voilà.
Et il dit notamment vainqueur en secret.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est votre façon de mener,
oui,
la guerre, Philippe Solers.
Si vous avez gagné, silence. Si vous perdez, faites du bruit. Utilisez les médias.
Et la guerre du goût, parce qu'il faut qu'on
la
y vienne.
La guerre du goût, c'est très
le premier
bien,
d'une j'aime série beaucoup, d'essais.
J'aime bien ce titre.
Publié,
voilà,
en 1994.
Ouais.
Cette guerre du goût, ça veut dire qu'il faut être prêt à engager sa vie,
oui,
et donc à risquer la mort,
la mort
pour le goût aujourd'hui.
La mort sociale ou la mort médiatique, ce qui revient au même aujourd'hui, puisque tout se passe dans le spectacle. Bon, voilà. Debord, de ce point de vue, a droit à une salutation émue. Hein, parce que ça peut vous amener au suicide aussi, qui est une façon pour un général qui se sent vaincu de terminer son aventure. Bon. Non, c'est la guerre. Dans la guerre, il faut des renseignements. On a plus ou moins de renseignements. On a un plus ou moins bon réseau de renseignements. Ça demande du boulot. Il faut trouver des gens qui peuvent vous donner l'enseignement. C'est l'espionnage, si vous voulez, au sens le plus classique du terme, mais qui peut prendre des formes très, très ramifiées.
C'est Shakespeare, c'est Homer qui vous renseigne ?
Oui, enfin, c'est Balzac, si vous voulez, aussi. C'est très au courant, hein, Balzac. Oui. Qu'est-ce que c'était que les coulisses de la banque de son temps ? Bon, alors, de temps en temps, il faut se renseigner. Il faut voir un banquier tous les mois ou tous les deux mois, qui vous raconte un peu le dessous des cartes, l'envers de l'histoire contemporaine, la façon dont on est en train de vous bluffer par tous les moyens, alors que vous n'avez aucun moyen de vérifier vos informations. Il faut savoir combien de milliards disparaissent, ce qui, je claque des doigts en ce moment, il en disparaît combien, regardez, hop, 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 hop. Hop, où ça, oh, aux îles Vierges, oh, aux îles Caïmans, oh, là, 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 là. Les gens croient avec naïveté à ce qu'on leur raconte.
Mais parce que votre guerre...
Les vrais enjeux sont évidemment financiers. Les marchés financiers ont fait une percée considérable. Et la suite, on peut la retombe en pluie fine dans les vies privées, c'est-à-dire tout temps à faire que vous vous teniez tranquille, de façon plus ou moins résignée, avec ce qu'on vous laisse comme peu de liberté. Voilà.
Votre combat, votre guerre peut-être, Philippe Solers, c'est au nom de cette passion que vous qualifiez de dominante pour le langage, pour la formulation, pour la formule, contre cette contre-passion dominante qu'est l'argent. Écrire, qui est aujourd'hui, le... pour vous, c'est aussi et peut-être d'abord contre l'argent.
Le mauvais goût, la vulgarité. Comment se fait-il que des forces aussi puissantes engendrent un tel mauvais goût, une telle perte du goût? C'est ça qui m'intéressait. C'est on ne fait pas une tyrannie avec de la dentelle. Ça, on vous recouvre tout ça de tas de bavardages, mais en fait, c'est d'une violence extrême. Hein. Il faut quand même que quelqu'un prenne le risque d'ouvrir les yeux. Enfin, voilà. Peu importe que ça n'ait pas de succès ou que ça vous donne une très mauvaise réputation. Voilà. Peu importe. Il faut le faire parce que tout simplement, ne rien faire, c'est collaborer.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Philippe Solers. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehorse, Yvan Turc, réalisation Rafik Zénine, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.